Avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Est-ce une arme ou un danger pour la démocratie? Deux propositions de loi de La République En Marche cherchent à lutter contre la manipulation de l'information en période électorale après des scrutins où l'ingérence de la Russie a été dénoncée en France et aux États-Unis. Une loi contre les fake news, les fausses informations, une loi comme le souhaite Emmanuel Macron, a électrisé cette nuit l'Assemblée nationale. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, sous le feu des critiques, vous l'entendrez.
Et puis à la une également, la confrontation s'annonce tendue entre Donald Trump et les 6 autres pays membres du G7. Le sommet s'ouvre au Québec sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde.
Fini les portables à l'école et au collège à la rentrée prochaine. L'Assemblée nationale a adopté hier une proposition de loi reprenant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, inutile pour l'opposition. Et vous avez été nombreux à réagir cette semaine à ce sujet. Pour notre chronique interactive du vendredi, vos témoignages au hashtag téléphone à l'école à retrouver à la fin de ce journal. L'exécutif veut lutter contre un fléau démocratique, la manipulation de l'information en période électorale. Et pour lutter contre cela, des lois permettraient à un candidat ou à un parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fake news, de fausses informations, durant les 3 mois précédant un scrutin national. Obligation de transparence également imposée aux plateformes comme Facebook ou Twitter lorsqu'elles diffusent des contenus contre rémunération. L'attitude liberticide face aux dangers actuels, c'est la passivité. C'est ce qu'a expliqué hier la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Françoise Nyssen a eu beau démentir toute volonté de censure, Anne, elle a été la cible de toutes les critiques hier à l'Assemblée nationale lors des 8 heures de débat.
Très dure et longue soirée pour la ministre de la Culture. Elle subit les tirs croisés des Républicains, des Insoumis, des Communistes, des députés du Rassemblement National et de Debout la France. Françoise Nyssen qui reprend la parole après la discussion générale et qui laisse parler l'éditrice en elle pour tenter de rassurer.
J'ai publié Salman Rushdie, j'ai publié Asli Erdogan, emprisonné et menacé parce qu'elle écrit. Il est dans mon ADN de défendre une cause, de s'engager dans un débat d'idées.
Mais rien n'y fait, le débat repart de plus belle, c'est l'article 1 le plus polémique qui est discuté et le député du Rassemblement National, Sébastien Chenu, s'emporte.
Vous n'acceptez qu'une vérité, la vôtre, qu'un diffuseur, celui qui vous flatte et qui ferme les comptes Twitter de génération identitaire, qu'une idéologie, celui qui promeut les intérêts et qui combat les idées. Le rôle que vous assignez d'ailleurs aux magistrats démontre en outre le mépris dans lequel vous les tenez.
Le Rassemblement National qui donne des leçons de morale, ça ne passe pas pour la députée LaREM, Aurore Berger, qui monte au créneau.
La proposition de loi que nous présentons aujourd'hui au nom de la majorité à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir permet non pas de décider ce qui sera une vérité d'État, mais permet justement de garantir que nous sommes en démocratie. Cette même démocratie qui vous permet ce soir, dans cet hémicycle, d'insulter la ministre. Cette même démocratie qui fait que nous continuerons à vous combattre.
Les esprits s'échauffent alors que quasiment tous les amendements sont encore à examiner, dont les 49 déposés par la France Insoumise. Le député Alexis Corbière se laisse aller au scepticisme sur l'issue des débats.
La République n'est pas un régime neutre. Indiscutablement, mais au vu de l'organisation concrète, la question est toujours concrète, comme l'information se fabrique concrètement.
Je
termine, comme la loi se fabrique concrètement, vous êtes en train de faire une fake law, parce que nous ne la terminerons pas, donc vous ne faites rien en vérité.
Merci monsieur le député.
Passé minuit à l'initiative de la rapporteure Naïma Moutchou, l'Assemblée réécrit la définition d'une fausse information qui devient toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse. Débat extrêmement délicat dans un calendrier parlementaire surchargé. Aucun rendez-vous n'a été fixé à ce stade pour la reprise de l'examen du texte.
Anne Fauquemberg, merci pour ces explications. Vous signez également un dossier en une sur franceculture.fr. Fausses informations, a-t-on besoin de nouveaux outils juridiques? Vont-ils faire front commun face à Donald Trump? Emmanuel Macron invite la chancelière allemande Angela Merkel, la première ministre britannique Theresa May et le nouveau chef du gouvernement italien, le populiste Giuseppe Conte, à se réunir ce matin juste avant le début du sommet du G7 qui se tient au Québec. L'objectif des Européens, afficher leur unité face aux menaces de guerre commerciale du président américain. Je suis convaincue que l'Europe tiendra son unité et la tiendra dans la durée sur ces sujets, a affirmé Emmanuel Macron hier au Canada, sauf que l'Allemagne et l'Italie craignent, elles, de nouvelles surtaxes américaines sur l'automobile après celles décidées la semaine dernière sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis depuis l'Union européenne notamment. Theresa May, par ailleurs, se trouve dans une position inconfortable alors que le Royaume-Uni s'apprête à sortir de l'Union européenne et qu'obtenir un accord de libre-échange avec les États-Unis est au cœur de sa stratégie post-Brexit. Brexit encore, combien coûtera la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour les entreprises françaises? 4 milliards d'euros, c'est le chiffre avancé hier par une étude du cabinet Oliver Wyman. La France serait le troisième pays de l'Union le plus affecté par ce divorce, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, Tiffaine Honoré.
Avec 38 milliards d'euros de biens et services vendus chaque année aux Britanniques, le Royaume-Uni est un client majeur pour les entreprises françaises. Alors le rétablissement de barrières douanières les affecterait directement, et a fortiori les plus petites d'entre elles. Pénalisées par leur manque d'expérience dans les exportations hors de l'Union, les PME françaises ont un autre handicap selon ce rapport, leurs lourdeurs administratives. Un constat partagé par Alban Magyar de la CGPME, si la facture de 4 milliards d'euros du Brexit est difficile à confirmer, il appelle néanmoins les patrons de ces entreprises à anticiper.
Une démarche export, c'est une démarche dont les résultats apparaissent à moyen et long terme. Il faut trouver des distributeurs, il faut trouver des clients, il faut avoir un packaging qui plaise au pays, à la culture et au réseau de distribution auquel vous vous adressez.
L'agroalimentaire serait le plus affecté par un Brexit dur. Selon le pire des scénarios, 900 millions d'euros par an ne rentreraient plus dans les caisses de ce secteur. Alors quels autres débouchés pourront trouver les produits laitiers, la viande et le vin français? C'est ce qui préoccupe Yves Le Morvan du think tank Agridé.
Il y a deux préoccupations. Une qui est visible immédiatement, qui est la perte partielle de marché. Mais il faut absolument avoir en tête un deuxième risque de dégâts collatéral qui est celui de détournement de marché. C'est-à-dire que toutes les entreprises des différents pays communautaires qui ne pourront plus vendre au Royaume-Uni chercheront à vendre sur les autres pays communautaires.
De leur côté, les pays du Commonwealth se frottent les mains. Le vin australien a d'ores et déjà distancé le rouge français sur les tables britanniques.
C'est une première en France. Des apiculteurs de laine portent plainte au pénal contre le fabricant d'herbicides Monsanto Bayer pour administration de substances nuisibles. Le très controversé et probable cancérogène herbicide de Monsanto, le glyphosate, au cœur de cette plainte. Le glyphosate qu'Emmanuel Macron s'est engagé à proscrire en France d'ici 2021.
7h38 sur France Culture, c'est l'heure du hashtag Catherine Dutu. Comme tous les vendredis, cette chronique interactive à laquelle vous pouvez participer via les réseaux sociaux, hashtag est consacré cette semaine à l'interdiction des téléphones portables à l'école.
L'Assemblée nationale a voté hier cette interdiction effective des portables dans les écoles et collèges à la rentrée prochaine, dans les couloirs, à la récréation. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les téléphones qui sont déjà interdits pendant les cours depuis 8 ans, sauf que...
J'ai ma meilleure amie, en fait, on n'est pas dans la même classe. Elle est dans la classe à côté et moi je suis dans l'autre classe. Du coup, on parle en message en physique chimie. Je m'ennuie trop, bah je parle avec elle. Voilà, où les contrôles. En fait, j'envoie la question et vu qu'elle l'a déjà fait, bah elle m'envoie toutes les réponses. Du coup, c'est trop bien.
Vous venez
d'en... Je me suis jamais fait attraper.
Vous venez d'entendre Siana, elle est en classe de 4e au collège Victor Hugo dans le 11e arrondissement de Paris, où les téléphones portables sont donc normalement totalement interdits. Mais ça ne l'empêche pas d'utiliser son téléphone, ou plutôt ses téléphones, Claudia Bertram.
Siana a deux téléphones, un smartphone et un Bigo, comme elle dit. Un téléphone ancienne génération jaune fluo qui lui permet d'être tout le temps joignable, même si un professeur lui confisque son iPhone. Quand je l'ai rencontrée, elle attendait son amie Angela, qui est aussi en 4e dans un collège voisin. Collège qui vient d'interdire les téléphones dans la cour de récré.
Je trouve ça un peu idiot parce que du coup, on peut plus rien faire, sinon on se le fait confisquer. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage, un peu chiant.
Tu faisais quoi? Est-ce qu'à la récré, automatiquement, tu sortais ton téléphone?
Non, pas forcément. Je sortais quand j'en avais envie. Quand j'avais envie d'écouter de la musique, je pouvais mettre mes écouteurs. Si j'avais besoin d'appeler ma mère, j'appelais ma mère, des trucs comme ça. Donc oui, c'était pratique, quoi.
Et aujourd'hui, est-ce que tu respectes cette interdiction?
Pas forcément, non. Non.
C'est-à-dire, qu'est-ce
que tu fais? Je me suis fait prendre hier dans les couloirs, je regardais juste mon téléphone parce que je devais juste prévenir ma mère. Je pensais terminer plus tôt et je la prévenais qu'au final, je restais une heure de plus. Je me suis fait confisquer mon téléphone.
Et comment les professeurs gèrent-ils, Claudia, les téléphones à l'école?
Les enseignants ont justement été nombreux à réagir sur notre page Facebook, notamment une professeure de collège qui nous décrit un quotidien compliqué, élèves qui se cachent dans les toilettes pour écrire des messages, qui prennent des vidéos à notre insu sous les tables. Cela donne envie de les interdire, écrit-elle. Dans d'autres collèges, les téléphones sont invisibles et restent dans les sacs, comme dans la classe de Laure Marchand, mais leurs effets sur la concentration des élèves est bien réel.
On le sent, hein, que les élèves ils ont du mal à décrocher de leur téléphone, ils le disent quand ils rentrent et qu'ils font leurs devoirs. Très souvent, ils ont leur téléphone à côté d'eux et du coup, ils font leurs devoirs un petit peu en dilettante. Ils sont beaucoup moins concentrés et c'est vrai qu'on voit que, par exemple, dans la production, ce qu'ils rendent en termes de devoirs le lendemain n'est pas très bon.
Et qu'en pensent, Claudia, ceux qui ont le pouvoir d'interdire ces téléphones portables, à savoir les chefs d'établissement ?
Valérie Quéric est la principale du collège Louis Boulan à Couloisy dans l'Oise. Elle autorise les téléphones dans la cour.
Cette tolérance d'usage dans la cour fait que ils ont leur moment à eux, ils ont les moyens de déconnecter, puis on n'a pas de bagarre, on a un bon climat scolaire. Moi je suis dans un établissement où il n'y a plus du tout d'agressivité entre les élèves, quoi. Pour plein d'autres choses aussi, hein, mais en l'occurrence, je pense que ça aide aussi à se ressourcer, à se reposer.
Dans ce collège, cette tolérance s'accompagne d'une véritable prévention sur l'utilisation des outils numériques. La pédagogie, c'est ce que martèle Nora Fraisse. Cette mère de famille a fondé l'association Marion la main tendue pour lutter contre le harcèlement scolaire, dont le cyberharcèlement.
Je pense que ça doit être accompagné de tout un parcours d'usage de ces outils pour appréhender Internet et ses risques et ses dangers en tant que victime, mais aussi en tant que potentiel agresseur. Parce qu'interdire pour interdire, ça n'apportera rien. Parce que c'est déjà le cas, hein, la plupart des établissements ont interdit le téléphone portable. Hein, mais ça n'empêche pas le cyberharcèlement, parce qu'ils ne sont pas formés à l'usage, j'allais dire, bienveillant et correct de cet outil.
Et selon elle, il faut aller encore plus loin et interdire à l'école les montres connectées ou les tablettes, par exemple. C'est d'ailleurs ce que prévoit la future loi.
Claudia Bertram, vous signez le hashtag téléphone à l'école, témoignage à retrouver en longueur sur franceculture.fr. Le temps de ce vendredi 8 juin, instable encore une fois avec des averses orageuses du massif central jusqu'à l'est du pays, davantage d'éclaircies à l'ouest et près de la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre 10 et 18 degrés d'ouest en est. Cet après-midi, il fera 20 degrés à Cherbourg, 23 à Marseille, 27 degrés à Paris, à Lyon, à Cahors et à Metz.